Le journal Loïc Barrière. Un bateau transportant des migrants a fait naufrage au large du Liban, bilan plusieurs morts et disparus. Qui de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron sera choisi par les Français pour diriger le pays pendant 5 ans? Les électeurs votent aujourd'hui pour le second tour de l'élection présidentielle. Israël interdit à partir d'aujourd'hui aux Palestiniens de Gaza de se rendre en territoire israélien. Le Ramadan, un moment important pour maintenir le lien, la cuisine et ce qui nous réunit, c'est ce que nous dira la cuisinière Fatima Hall, invitée de ce journal. Malgré la PAC orthodoxe, pas de trêve dans la guerre en Ukraine. Le président Zelensky a annoncé la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Enfin, l'invité de la bibliothèque de Radio-Orient à 19h est Karima Berger pour les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman aux éditions Albin Michel. Nous écouterons un extrait de cette émission. Un bateau transportant des migrants a fait naufrage hier au large de Tripoli, au Liban. Plusieurs corps ont été repêchés, dont celui d'une petite fille. Une quarantaine de personnes a pu être secourues. Plusieurs sont encore portées disparues. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, au moins 1570 personnes ont quitté le Liban par la mer l'an dernier pour tenter de se rendre à Chypre. Le second tour de l'élection présidentielle en France, 48 millions de Français sont appelés à choisir Emmanuel Macron ou Marine Le Pen pour diriger la France pour les 5 ans qui viennent. À 17h, la participation était de 63,23%, soit une baisse de 2 points par rapport au premier tour. C'est aussi l'un des taux de participation les plus bas pour une élection présidentielle depuis plus de 20 ans. Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont, Emmanuel Macron au Touquet. Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 19h, 20h dans les grandes villes. Le nom du vainqueur de l'élection sera connu à 20h. 12 Palestiniens arrêtés ce week-end en Cisjordanie occupée, des arrestations liées à une série d'attaques meurtrières ces derniers jours en Israël. Les Palestiniens de Gaza ont par ailleurs interdiction de travailler en Israël à partir d'aujourd'hui, une mesure annoncée après de nouveaux tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne. Elle est chef cuisinière, originaire d'Oujda et propriétaire du restaurant La Mansouria à Paris. Fatema Hall nous parle du ramadan d'un point de vue gastronomique. Elle insiste notamment sur l'importance du lien à l'occasion de ce mois empreint de spiritualité. Fatema Hall.
C'est le mois où on cuisine le plus. Pendant le ramadan, on dépense 2 à 3 fois le budget d'un mois normal. Ça donne envie d'inviter, ça donne envie de partager et ça donne envie de faire plaisir. Donc on pense beaucoup aussi à l'autre. Le temps de préparation ne change pas, mais on ne le voit pas. Parce que ce temps qu'on consacre à ces préparations, on a envie d'épater, on a envie de faire plaisir, on a envie de se faire aussi plaisir. Et donc on explore, et c'est ces talents de cuisinier, ces talents de gastronome, et ces talents aussi de gourmand.
Je sais que vous aimez beaucoup les marchés, notamment oui. Quand vous êtes au Maroc. Le ramadan, c'est aussi aller dans les marchés?
Alors, avant, c'était aller dans les marchés. Le monde est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, aucune famille au Maroc, sauf les voyageurs ou les célibataires, personne ne mangeait à l'extérieur. Le ftour doit se faire chez soi, à la maison. Et depuis une dizaine d'années, les gens commençaient à aller dans les restaurants ou alors commandent chez les traiteurs ou les boulangeries qui préparent énormément de choses. Parce que les gens mangent beaucoup de viennoiseries, malheureusement d'ailleurs. Ce qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, on peut se faire plaisir tout en cherchant aussi l'équilibre alimentaire.
Alors comment se passe un bon ramadan pour vous? Qu'est-ce qu'un ramadan réussi d'un point de vue gastronomique?
D'abord, effectivement, faire son marché, acheter les produits de la saison. Tout est amour, en fait. Et en pensant à l'amour de l'autre, que ça soit pour les enfants, pour le mari, le fiancé, ou je ne sais pas, ou la famille, le voisin. Moi, en ce moment, c'est la phase où je passe par l'ancien, très 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 ancien, c'est-à-dire qu'en fait, toute recette qu'on connaît pas, même si elle a 200 ans, c'est du nouveau pour moi. Donc j'essaye pendant le Ramadan de trouver des recettes un peu oubliées que je détricote. Bon, par exemple, une recette où il y avait avant le semaine, le beurre clarifié et l'huile d'olive. J'essaye d'alléger un petit peu tout en gardant sa personnalité, son ADN. J'essaye de mettre un peu plus les légumes à l'honneur et j'essaye d'introduire donc plus de légumes que de viande, plus de légumes que de sucreries, les salades, plus de fruits. L'idéal, c'est d'avoir une table où le cuit, le cru, où les couleurs sont les couleurs de printemps, parce que le Ramadan cette année, c'est pendant le printemps, et qu'elle soit non seulement remplie de belles et bonnes choses, mais aussi qu'autour, il y a les gens que nous aimons, et leur dire combien on les aime sans dire un seul mot. Simplement par ses préparations.
C'est ce que vous êtes en train de nous dire finalement. Le repas partagé, c'est une occasion d'exprimer son amour aux gens autour de soi.
C'est une déclaration d'amour à l'autre parce que personne ne peut imaginer d'aller 2 heures pour faire le marché, 3 heures à cuisiner. Si on n'aime pas les gens, on fait pas ça. On va chez un traiteur, on commande, on achète, on pose à table. C'est pas du tout le même langage, c'est pas du tout le même message. Mais le message qu'on envoie lorsqu'on a tout préparé, tout acheté, tout pensé, c'est tellement merveilleux. Et en même temps, avec ses parfums, ses odeurs, ses bruits, parce que en cuisinant, il y a aussi le bruit qui est très important, c'est aussi ça la transmission. C'est-à-dire que les enfants ou les gens qui passent, en écoutant ça, ça crée des souvenirs. Et le moment présent est un souvenir pour l'avenir et ça maintient le lien. Et on en a besoin en ce moment de maintenir le lien.
Et le Ramadan, c'est aussi l'occasion de faire découvrir la cuisine maghrébine du Maroc, d'Algérie, de Tunisie à des Français qui ne connaissent pas cette cuisine.
Absolument, et aussi de leur dire, parce que les temps sont durs, que ce mois, le spirituel et la vie de tous les jours, c'est une fête. C'est pas une punition. Le fait de jeûner, c'est un choix. On l'accepte, mais ça n'empêche pas d'en faire un moment de fête et de plaisir. À l'occasion de ce Ramadan, je souhaite qu'on oublie un petit peu ce qui nous oppose, qu'on pense à ce qui nous unit. Que finalement, que le couscous soit marocain, algérien, tunisien, on s'en fout. Le couscous nous réunit. Les plats qui nous viennent d'Orient, on s'en fout s'ils appartiennent aux Syriens, aux Libanais, ou aux Irakiens, ou aux Iraniens. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on apprenne à les faire et à les déguster. Par ce mois du Ramadan, c'est de penser que effectivement un des derniers liens forts qui nous reste à l'humanité, c'est cette cuisine, c'est ce partage, c'est cette déclaration d'amour pour dire finalement combien la vie est sublime et merveilleuse. Le fait de se réunir et de partager et de cuisiner, eh ben on préserve ce patrimoine et cet héritage qui est immense.
Fatema Hall, elle a notamment écrit le livre Ramadan, la cuisine du partage. Vladimir Poutine a célébré la Pâque orthodoxe ce dimanche à Moscou, sans accorder de trêve à l'Ukraine. Les Ukrainiens ont fêté la Pâque orthodoxe, eux aussi, dans ce contexte difficile. Ces dernières heures, plusieurs villes ont été la cible de frappes russes. Dans le métro de Kiev, le président Zelensky a donné une conférence de presse hier, 2 mois après le début de la guerre. Il a annoncé qu'il voulait rencontrer le président Poutine. Il a évoqué aussi la première visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Ukraine ce dimanche. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient, tout à l'heure à 19h, sera Karima Berger pour les gardiennes du secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman, un livre publié aux éditions Albin Michel. Je vous propose d'écouter un extrait de cette émission.
C'est un livre, en tant que femme, je l'ai toujours porté en moi, peut-être pas sous forme de livre, peut-être sous forme de pensée, sous forme d'une histoire, une autre histoire des femmes d'Algérie, du monde arabe qui serait écrite. Et je l'ai porté, on peut trouver des bribes déjà dans L'enfant des deux mondes, mon premier livre, ou dans Égir, où je parle beaucoup de Hagar. Et les femmes ont toujours été très présentes dans mes livres. Et peu à peu, comme ça, j'ai réussi à constituer ce livre qui, effectivement, je le porte depuis longtemps et peut-être va-t-il encore avoir des petits sous d'autres formes cette fois.
Alors, je l'ai dit, c'est un livre personnel. Vous évoquez les femmes de votre famille et vous dites qu'elles ne lisaient pas. Vous dites, vous, que vous étiez impatiente de découvrir ce qu'il y avait dans le Coran.
Oui, j'étais impatiente parce que les Corans qu'avaient mon père et mon grand-père, ils étaient rangés dans une bibliothèque grillagée, vous savez les jolis grillages en cuivre là avec des petits rideaux roses derrière, et il les sortait quand il les lisait lui, mais nous on n'avait pas trop le droit d'y toucher. Et effectivement, pour une enfant, pour une adolescente comme moi en tout cas, dès que c'est interdit évidemment, enfin interdit, disons que il fallait que je le fasse avec lui, et donc effectivement je voulais voir quelle était cette parole divine. Quand mon père me disait c'est la parole de Dieu, c'était impressionnant. Il me dit comment la parole de Dieu peut être contenue dans un livre, dans des lignes, dans des lettres, dans des mots.
Et vous écrivez ceci, dans nos religions monothéistes et dans l'islam en particulier, c'est par l'écrit que Dieu s'est manifesté. Chaque verset du livre possède un sens apparent et un sens caché. C'est un peu l'objet de votre livre, trouver le sens caché.
Exactement, oui, tout à fait. Et ce hadith qui est très beau, hein, chaque verset a un sens caché, un sens zahir et un batin. Donc il y a le dos, hein, le batin c'est le ventre et le zahir c'est le dos. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse dans une religion, dans ma religion, mais dans les autres aussi, parce que je pense que toutes elles se rejoignent de toute façon. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement l'écorce, c'est-à-dire l'apparence, c'est le noyau, c'est l'intérieur, c'est le cœur. Et c'est là que les religions se rejoignent, c'est pas tellement dans les codes vestimentaires ou dans les codes rituels ou dans les interdits alimentaires, ça c'est des, je dirais, c'est comme des langues qui sont différentes pour chaque religion. Et effectivement, quel est ce noyau? Quel est ce secret? Qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de ce corps qu'est une religion.
Et c'est la raison pour laquelle vous citez à plusieurs reprises l'émir Abdelkader, qui était un grand maître spirituel, en plus d'être un combattant. Mm-hmm. Et vous citez aussi le maître de l'émir Abdelkader, qui était Ibn Arabi.
Ibn Arabi, oui, tout à fait. Ce sont les deux gardiens de ces gardiennes, disons, parce que j'ai dû m'expliquer à un moment, parce que c'est vrai, je m'adosse contre eux, parce qu'il n'y a qu'eux, en fait, qui ont écrit sur les femmes. Il y a, bien sûr, des traités de juridisme, de jurisprudence, d'exégèse sur les femmes, mais ils ne m'intéressent pas tellement, parce que ça, c'est l'apparence.
Alors, Karima Berger, vous citez toutes ces femmes qui peuplent l'imaginaire musulman. Hagar, on l'a dit, Rabia, Marie, Khadija. Vous écrivez que ce sont des héroïnes dont l'histoire a négligé ou méconnu la présence ou travesti l'existence.
Oui, je pense qu'il y a eu du mythe, hein, comme dans toute religion. On refait l'histoire, on réécrit l'histoire. Donc l'islam à 14 siècles... on commence à être une religion quand même avec une belle maturité. Et évidemment, beaucoup de choses se sont écrites après la révélation du prophète Mohammed.
Toutes ces figures ne sont pas exclusivement des personnes tirées du Coran ou des hadiths. Il y a aussi des figures comme Leïla, l'héroïne du conte Leïla et Majnoun, et aussi Sherazade, le fameux personnage des Mille et Une Nuits. Une héroïne, écrivez-vous, qui vous a secouru, vous et vos sœurs.
Absolument, absolument. Sherazade, je le disais dans une émission récente, c'est notre sainte. C'est notre sainte. C'est une femme qui raconte des histoires à son mari pour qu'il ne la tue pas. Donc elle raconte les histoires, elle raconte pas la fin pour qu'il ne la tue pas, mais pour qu'il ne tue pas non plus toutes ses sœurs, toutes les femmes. Cet homme, ce sultan qui était jaloux, etc., voulait tuer non seulement Sherazade, mais sa femme, mais aussi toutes les femmes. Donc c'était la fin de l'humanité. Parce que sans les femmes, vous n'avez plus de perpétuation de l'espèce. Donc elle nous a sauvés. Mais elle nous a sauvés pas par sa beauté et par sa danse des sept voiles, comme on le voit ici en Occident. Non, elle nous a sauvés par sa parole, par sa pensée, par son imaginaire, par sa faculté de bâtir des histoires et de faire rêver son mari et de l'amener à la sagesse, puisqu'à la fin, il se convertit à sa femme, si on peut dire. Voilà, donc c'est pour ça que Sherazade, c'est quelqu'un qui nous a sauvés. Je lui ai dédicacé le livre à elle et à Hajar. Voilà, Agar, je la porte dans mon cœur, parce que c'est quand même la mère des Arabes, la mère du peuple des Arabes. Les Arabes qui ont eu le Coran, puisqu'ils n'avaient pas eu encore d'envoyé, comme on dit dans le Coran, ils n'avaient pas encore eu de Rasoul, du dieu monothéiste. Bon, et cette Agar, qui est la mère des Arabes, qui a donné naissance à Ismaël, qui a été chassée par Sidna Ibrahim dans le désert, promise à la mort, parce que quand vous envoyez votre femme et votre fils avec juste une petite gourde d'eau, hein, c'est bon. Mais Dieu l'a sauvée puisqu'elle a trouvé la source Zemzem, etc. Et Agar, je trouve qu'elle est peu présente dans la tradition arabo-musulmane, en tout cas. Peut-être je ne connais que l'Algérie vraiment de façon proche, donc je ne veux pas dire. Peut-être dans d'autres pays elle est présente. Donc, mais en tout cas, je trouve que on n'a pas trop rêvé sur elle, et je trouve qu'elle est méconnue, alors que c'est quand même notre mère à tous et à toutes.
Karima Berger, elle publie Les Gardiennes du Secret, les grandes figures féminines de l'imaginaire musulman, aux éditions Albin Michel. Elle sera l'invitée de la bibliothèque de Radio Orient tout à l'heure à 19h. Dans l'actualité encore de ce dimanche, un homme de 26 ans est mort hier après avoir été touché par les tirs d'un policier qu'il menaçait avec un couteau. Cela s'est passé à Blois. L'homme était un étudiant marocain arrivé en France en septembre dernier. Enfin, un prêtre et une religieuse ont été agressés au couteau ce matin lors d'une messe dans une église de Nice. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Âgé de 31 ans, l'agresseur serait un déséquilibré. Cette édition est terminée. Excellente soirée à l'écoute de Radio Orient. Demain, à midi et 18h, vous retrouverez François-Xavier de Calonne. Excellente soirée à tous.